Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Anne Le Breton, élue de Paris La République En Marche, adjoint au maire du 4e arrondissement de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Anne Le Breton, la semaine a été marquée par deux événements marquants. Mercredi, le matin, l'hommage de la République au colonel Beltrame qui a donné sa vie pour sauver une otage. Et la marche blanche organisée pour Mireille Knoll, victime d'un meurtre à caractère antisémite à Paris. Nous allons d'abord évoquer cette marche blanche à laquelle vous avez participé avant-hier. C'était un moment de grande émotion pour vous.
Absolument, d'autant plus que cette marche blanche a eu lieu un an après un autre acte qui a été donc le meurtre de Madame Halimi et pour lequel il n'y avait pas eu la même réaction. Je crois que c'était un moment un petit peu compliqué où tous les partis politiques étaient en campagne présidentielle, ont été très frileux à ce moment-là à réagir. Ça m'avait beaucoup choqué à ce moment-là parce que là, pour le coup, le juge n'avait pas retenu le caractère antisémite qui était pourtant démontré par de nombreux témoins qui avaient vu ce qui s'était passé puisque cette dame avait été défenestrée publiquement devant ses voisins. Et ça avait été... Alors vous savez, moi, je suis élue dans le 4e qui touche le 11e. On a beaucoup, c'est un quartier où il y a eu traditionnellement une grande communauté juive, puisque c'était l'ancien ghetto de Paris, même au Moyen-Âge. Et beaucoup de la communauté du 4e a déménagé dans le 11e. Enfin, il y a vraiment une porosité entre les deux. Donc, on se sent très proche de cette population. Et ça a été vraiment choquant pour moi, le fait que l'année dernière, il y ait peu de réactions au décès de Madame Halimi. Donc, cette année... j'ai été heureuse de voir que effectivement il y a une prise de conscience de quelque chose de monstrueux qui s'était passé, quand même une dame de 85 ans.
Comment peut-on lutter davantage contre l'antisémitisme et je dirais tous les racismes ?
Ben, je pense qu'il faut beaucoup parler. On est 15 ans après un livre qui avait eu beaucoup de qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Qui est Territoire perdu de la République, qui avait été publié en 2002. Et 15 ans après, certaines choses qui avaient été montrées dans ce livre n'ont pas été complètement pris à bras-le-corps. Il y a besoin de parler, il y a besoin d'enseigner ce qui fait notre histoire commune. Et donc, notre histoire commune, effectivement, c'est aussi le fait qu'on a eu la déportation de Juifs en France. Il faut expliquer comment c'est arrivé et il faut pouvoir l'expliquer partout en France. Et malheureusement, et vous le savez comme moi, ça n'est toujours pas le cas. Il y a des endroits où on ne peut pas parler de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'est mal reçu des élèves. Et donc, il faut absolument pouvoir continuer cet effort d'enseignement de notre histoire commune dans les écoles, je pense que ça c'est déjà la base, et dans les familles aussi, travailler à tout ce qui fait les racines de cet antisémitisme qui est bien entendu intolérable.
Il faut déconnecter la question de la Shoah, de la question israélo-palestinienne.
Mais je pense que ça n'a absolument rien à voir. Enfin, c'est si toutes les communautés qui, par leurs origines, devaient venir se tuer sur notre territoire. Enfin, vous imaginez ce que ça donnerait. Bien sûr que ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'exfiltration de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, dont le CRIF ne souhaitait pas la présence lors de la marche blanche ?
Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié la position du fils de Madame Knoll, qui a été très claire, qui ne souhaitait pas... D'abord, il ne souhaitait pas de récupération politique. Alors, malheureusement... le fait d'avoir stigmatisé Madame Le Pen, ça lui a permis, au contraire, d'avoir une tribune qu'elle n'aurait peut-être pas eue si ça s'était passé plus discrètement. Je pense que dans un cas comme ça, c'est le souhait de la famille qui est absolument la chose la plus importante. Ce sont des gens qui ont perdu leur maman, une dame âgée. C'était leur journée, c'était à eux de dire ce qu'ils souhaitaient pour cette manifestation.
Donc vous regrettez les insultes, les incidents qui ont émaillé cette manifestation, des incidents très isolés puisque l'ensemble de la marche a été très pacifique.
Oui, mais enfin moi j'ai entendu les incidents puisque j'étais sur place et c'était quand même assez violent quand même. Et oui, je pense que cette marche aurait été encore mieux s'il y avait déjà beaucoup de monde, mais ça aurait été mieux s'il y avait eu une vraie marche blanche en silence et puis dans le recueillement comme ça devait être. Et
c'était important aussi que tous les partis politiques soient représentés, que ce ne soit pas une marche organisée par le CRIF.
Oui, bien sûr que c'est important que tous les partis soient représentés. Mais là, ce que je crois aussi, ce que le CRIF a exprimé, c'est toujours le problème que tout le monde a avec le Front National. C'est quand, jusqu'à où on laisse ce parti. C'est le malaise que beaucoup d'autres, que tous les autres partis ont avec le Front National. Effectivement, il y a des élus de la République, mais où leur laisser la place? Comment montrer qu'on n'est pas d'accord avec leurs idées? Enfin, c'est toujours très compliqué de savoir comment être avec le Front National.
Vous-même, vous êtes mal à l'aise quand vous êtes en présence d'un élu du Front National sur un plateau de télévision, par exemple?
Non, sur un plateau de télévision, c'est assez simple pour moi parce que c'est, là, pour le coup, c'est un adversaire politique. Mais je suis mal à l'aise quand je dois effectivement travailler avec le Front National. C'est compliqué parce que effectivement, il représente une partie des Français. Mais moi personnellement, je ne souhaite pas qu'il représente plus de Français. Donc quelle place leur donner ? Enfin, vous savez, c'est un vieux débat. Hein. Ça fait 25 ans que les partis politiques se posent la question de que faire du Front National.
Anne Le Breton, j'aimerais qu'on évoque aussi la question du terrorisme après les attaques de Trèbes et de Carcassonne. Mais d'abord, quelle leçon faut-il tirer du geste de courage du colonel Beltrame, puisqu'il est désormais colonel à titre posthume, un homme qui a sacrifié sa propre vie en prenant la place d'une otage?
Ça force l'admiration. Je pense que tous les Français l'ont ressenti ainsi et la nuit où il a été entre la vie et la mort, je pense qu'on a été beaucoup, beaucoup à penser à lui, pour ceux qui sont religieux, à prier pour lui. Il y a eu vraiment, je pense, un moment, cette nuit-là, où on pensait qu'il avait peut-être une chance de s'en sortir. Il y a vraiment eu une nuit de communion nationale et on s'est tous réveillés le dimanche matin en apprenant qu'il était mort et c'était vraiment je pense qu'il y a eu une douleur nationale. Il y a eu quelque chose de l'ordre du vivre ensemble. Enfin, je pense que tout le pays a souffert à ce moment-là.
Et les mots d'Emmanuel Macron vous ont touché, notamment quand il a comparé son geste finalement à celui des grands héros de l'histoire de France, de Jeanne d'Arc aux résistants.
Donner sa vie pour la vie de quelqu'un d'autre, c'est toujours héroïque. Hein. C'est un geste héroïque, on ne peut pas le décrire autrement.
Alors, Jean-Luc Mélenchon a été applaudi par vos collègues de La République En Marche à l'Assemblée nationale pour ses propos refusant de critiquer le gouvernement sur la question de la lutte antiterroriste. Laurent Wauquiez, au contraire, lui a accusé le président Macron de naïveté sur la question du terrorisme. Qu'est-ce que vous avez pensé du discours de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale ?
C'est Jean-Luc Mélenchon comme on aimerait le voir plus souvent. C'était un très très beau discours, effectivement. Je suis sûre que si j'avais été à l'Assemblée nationale, j'aurais applaudi comme mes collègues.
Sur la question du terrorisme, c'est l'unité qui doit toujours prévaloir.
Bien sûr. Bien sûr, on doit être un pays uni contre le terrorisme. On ne peut pas rentrer dans ces petites guéguerres de... Moi, j'ai entendu Éric Ciotti, par exemple, hier matin, je crois, sur une radio, ou avant-hier matin. C'est... On ne peut pas profiter d'un moment comme ça pour essayer de pousser son agenda politique. Ça n'est pas digne.
Comme après chaque attentat, certains responsables politiques font des propositions pour renforcer la législation antiterroriste. Alors on est sorti de l'état d'urgence et on a voté une loi qui a repris certains éléments de cet état d'urgence. Est-ce qu'il faudrait expulser les fichiers S de nationalité étrangère, comme certains l'ont proposé? Est-ce qu'il faut retirer la nationalité française aux islamistes radicaux, comme le réclame une partie de la droite et le FN?
Bon, moi, je me suis déjà exprimée longuement une fois sur la déchéance de nationalité. Non, je ne suis jamais favorable à la déchéance de nationalité. J'estime qu'on doit toujours assumer ces nationaux, quels qu'ils soient et quel que soit leur crime. Ça, c'est une chose. Ensuite, moi, j'aime bien travailler avec le réel. Ça n'est pas possible d'expulser tous les fichiers S. Donc, travaillons avec ce qui est possible de faire. On a déjà des lois qui sont extrêmement fortes à leur sujet. Moi, je fais confiance à la justice et à la police de mon pays sur ce sujet. Je pense que ça n'est pas nécessaire d'aller au-delà. Il faut travailler. Et malheureusement, on ne pourra jamais mettre un policier derrière tous les gens dont on pense que peut-être un jour, il pourrait avoir une idée folle. On a de la surveillance électronique. Si ces fichiers S sont déjà repérés, c'est déjà qu'on a réussi par un faisceau d'indices à s'intéresser à eux. C'est déjà énorme. Mais on ne peut pas non plus mettre en prison des gens qui n'ont rien fait juste parce qu'on pense qu'un jour, ils vont peut-être avoir envie de faire quelque chose.
C'est un outil de travail, ce fichier, avant tout, pour les renseignements.
Absolument. Et ceux qui veulent priver de liberté, tous les gens oublient que ça pourrait être eux aussi. C'est très très difficile de travailler avec la privation de liberté. On a des lois. Les lois, elles sont là aussi pour assurer la liberté de chacun, de le vivre ensemble. À faire de plus en plus de lois, je pense pas que ça va aider nécessairement à résoudre le problème de terrorisme.
Alors justement, le terrorisme, c'est aussi un test pour nos démocraties. Comment lutter contre le terrorisme qui évidemment ne respecte pas les valeurs démocratiques tout en respectant nos valeurs à nous?
Mais on est toujours en train de vivre des tests comme ça. On n'a jamais vécu des périodes de paix totale. Donc voilà, c'est notre guerre en ce moment. Mais on a eu dans les années 70 d'autres mouvements radicaux qui n'étaient pas islamistes. Enfin, il y a toujours quelque chose sur lequel on doit lutter. Donc cette période-ci, notre époque, effectivement, on a besoin de lutter contre l'islamisme, mais il y a eu dans le passé d'autres mouvements extrémistes qui étaient dits autrement, contre lesquels on a été obligé de lutter.
Le président Macron a utilisé des termes très forts pour décrire la menace terroriste. Il a dénoncé, je cite, « l'islamisme souterrain, ennemi insidieux de la France ». Comment vous comprenez ce discours?
Je pense que c'est un discours de vérité. Il faut aussi mettre des mots sur les choses. On ne peut pas juste prétendre que le terrorisme, c'est juste une radicalité qui n'est pas attachée à quelque chose. Effectivement, c'est la radicalité contre laquelle on lutte en priorité en ce moment, c'est le terrorisme islamiste. Il faut dire le nom. Et bien entendu, il faut aussi il faut nommer aussi les choses pour ne pas avoir à suspecter tout le monde et pour pouvoir travailler aussi à faire des prises de conscience dans toute la société. Pour pouvoir faire avancer les choses, il faut les nommer.
Il faut nommer les choses et en même temps, c'est ce que vous nous dites, il faut faire très attention à ne pas englober tous les musulmans sous cette bannière de menace islamiste.
Mais je pense qu'on n'englobe pas tous les musulmans sous la bannière de la. Mais il ne faut pas nier.
Vous ne le faites pas, mais certains responsables politiques donnent parfois ce sentiment-là.
Oui, il y a un clivage maintenant, effectivement, assez fort entre la droite assez extrême et l'extrême droite et d'autres factions politiques. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des Français qui fassent cet amalgame. On ne mélange pas les musulmans avec les islamistes, bien entendu, et ça pour la plupart des Français, mais les musulmans, eux aussi, doivent travailler avec ce qu'ils savent aussi, c'est que les terroristes en France se réclament de l'islam, et donc il y a quand même un travail très fort à faire au niveau de chacun et au niveau communautaire. Je pense qu'il y a un travail qui a besoin d'être fait.
En tout cas, les dirigeants de l'islam de France ont toujours condamné tous les attentats. Toutes les personnalités de confession musulmane ont été sans ambiguïté depuis le début des attentats.
Oui, bien sûr. Et heureusement.
Alors, le 3 et 4 avril, on change de sujet, Anne Le Breton. Une grève des cheminots va commencer, une grève perlée tous les 5 jours, un mouvement social qui s'annonce très dur. Est-ce que vous comprenez la colère des cheminots face à la réforme de la SNCF qui s'annonce?
Vous savez, nous, on a été élus pour avec un programme de réforme très fort. Et c'est là-dessus que les Français nous attendent. Et c'est ce qu'ils ont souhaité en mettant Emmanuel Macron à la tête de la République. Et donc, comme vous l'avez pu le constater, il est extrêmement actif et déterminé dans ses réformes. Et donc, la réforme de la SNCF, c'est un des sujets sur lequel il veut porter une réforme forte. Et comme il l'a dit lui-même, et son grand-père était cheminot, c'est très difficile à un moment où... On a des personnels qui travaillent comme les infirmières dans des conditions terribles, d'avoir d'autres fonctionnaires qui ont hérité d'un statut qui a été fait à une époque où les conditions de travail étaient très différentes de celles qui sont celles des cheminots actuellement, de voir ce statut perdurer.
Pourquoi faut-il toucher aux avantages des cheminots et non pas améliorer les conditions de travail des infirmières? Pourquoi c'est finalement une sorte de nivellement par le bas?
Parce que je pense que nous n'avons pas les moyens de niveler au niveau des avantages des cheminots pour toutes les catégories de fonctionnaires qui pourraient être concernées. Et donc, il faut le dire.
C'est le réalisme aujourd'hui, c'est cela?
Oui. C'est le réalisme, c'est vraiment ce qui est vraiment la base de notre politique.
Mais ce que disent les syndicats, c'est que finalement Emmanuel Macron se contente d'appliquer les directives de l'Union européenne et que c'est pas une politique tout à fait française, politique libérale qui se contente de casser les services publics. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique?
Mais moi, je ne vois pas en quoi toucher le statut des cheminots casse le service public. Au contraire, on va même on va investir dans des petites lignes pour que la France rurale soit mieux desservie. Ça, c'est quelque chose de très important. Le statut des cheminots n'est pas la qualité du service public.
Et le statut des cheminots n'est pas responsable du déficit de la SNCF?
Non, mais ça fait partie d'un ensemble qu'on est en train de revoir et de mettre sur la table, et ça fait partie des choses qu'on estime devoir changer.
L'invité de Pluriel est Anne Le Breton, élue de Paris La République En Marche, adjointe au maire du 4e arrondissement de Paris. Alors, les retraités ont manifesté contre Emmanuel Macron. Il lui reproche la hausse de la CSG. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose aux retraités qui sont mécontents?
Je pense que leur mécontentement a été entendu et qu'effectivement, il y a un travail qui est en train d'être mis en place pour essayer de trouver des compensations, puisque la suppression progressive de la taxe d'habitation va arriver de manière décalée par rapport au relèvement de la CSG, et donc va effectivement pénaliser les retraités. Et donc il y a certaines pistes de travail, je ne sais pas ce qui sera arbitré, mais il y a une piste de travail qui a déjà été rendue publique sur la demi-part fiscale pour les veuves. Je pense que le gouvernement réfléchit à essayer de répondre à ce mécontentement.
Alors, vous connaissez notamment la situation des maisons de retraite. On a vu les personnels des maisons de retraite manifester. Ils réclament plus de moyens dans les EHPAD. C'est un sujet qui nous concerne tous. Qu'est-ce que vous préconisez pour que les personnes âgées puissent avoir une fin de vie plus digne qu'actuellement ?
Alors, pour les personnes âgées, le vieillissement a complètement changé. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris la mesure de la manière dont les gens vont vieillir. Les gens vieillissent de plus en plus chez eux et de plus en plus en bonne santé, sauf à la fin. Et donc, c'est très compliqué de prévoir comment s'occuper des personnes âgées dans ces conditions-là. Moi, c'est ma délégation à la mairie du 4e, et donc j'ai des centenaires qui vivent jusqu'à 99 ans chez elles au 4e étage sans ascenseur, en montant les escaliers. Et puis tout d'un coup, la dernière année, il y a un moment où elles ne peuvent plus monter les escaliers, et qu'est-ce qu'on fait après ? Donc il va falloir être extrêmement inventif pour ces passages qui sont des passages de mobilité. Ça ne sert à rien de se dire à 60 ans, il faut absolument que je sois dans une position où je peux sortir de chez moi avec une chaise roulante, parce que il est possible qu'on n'en ait jamais besoin, il est possible qu'on en ait besoin 35 ans plus tard. Donc ce qu'il faut absolument maintenant, c'est travailler aussi les solutions de pouvoir rester chez soi, et il va y avoir des développements incroyables grâce aussi à l'informatique, où on va pouvoir avoir des capteurs chez soi qui permettront de prévenir, par exemple, en cas de chute, des choses qui n'existent même pas maintenant, mais qui sont sur le point vraiment d'être développées. Donc, il y a tout un monde à changer. Alors, par contre, il y aura toujours, bien sûr, besoin d'EHPAD pour des personnes qui vont passer de nombreuses années en situation de grande dépendance. Et effectivement, il y a un problème de personnel dans les EHPAD. Enfin, ça n'est pas ce qui se passait avant, c'est que dans ces maisons de retraite, beaucoup de gens qui y étaient n'étaient pas en situation de très grande dépendance. Et maintenant, souvent, on y va quand vraiment on est en situation de très grande dépendance, alors qu'elle n'avait pas été pensée pour ça vraiment au début. Donc, il y a un travail. Je vous dis, ce qui va se passer dans les 10 prochaines années sur le grand âge, ça va être une révolution.
Est-ce qu'il faut créer un service public des maisons de retraite, comme on l'a fait par exemple avec les crèches ? On n'imagine pas une ville sans crèche. Or, il n'y a pas de maison de retraite dans chaque ville française.
Mais parce que, comme je vous le dis, ce qui va arriver bientôt, ça va être une autre manière de voir les choses. Je pense que les gens seront moins en maison de retraite. Et par contre, ce qu'il faudra à ce moment-là penser, c'est la solitude des gens qui vivent seuls, mais qui souhaitent rester chez eux. Mais il y a tout un travail à ce moment-là de la ville inclusive à faire pour pouvoir continuer que les personnes âgées puissent continuer à vivre dans la ville, avoir des visites, participer à la vie citoyenne. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas encore bien mises en place.
Alors, parlons de ce que vous faites précisément, Anne Le Breton, à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des femmes qui avaient quasiment 100 ans et qui, à un moment donné, ne peuvent plus descendre leur 4e étage. Quand on fait appel à vous, qu'est-ce que vous faites ?
Eh bien, on n'a pas énormément de solutions, figurez-vous, parce que... Alors bon, le centre de Paris, c'est le Marais, ce sont des immeubles très anciens où il y a quasiment, il y a beaucoup d'immeubles où c'est impossible de mettre un ascenseur. Donc c'est pas le cas de toute de tout Paris ni de toute l'Île-de-France, bien sûr, mais effectivement, donc peut-être les gens doivent envisager de se mettre dans des endroits où ils peuvent avoir des ascenseurs un petit peu plus tôt dans leur vie. Mais il y a aussi des gens qui ne souhaitent pas partir de l'endroit où ils ont vécu toute leur vie et qui restent chez elles par choix. Et dans ces cas-là, il faut les accompagner à rester chez elles et il faut pouvoir avoir... mais tout ça existe, hein. Il y a les gens qui restent chez elles ont des visites à domicile, les repas à domicile. On peut même avoir du portage de livres à domicile. Les Parisiens ne savent pas ça, mais les bibliothèques rendent visite aux personnes âgées si elles le souhaitent et viendront leur apporter des livres chez elles. On a besoin d'avoir plus de bénévoles.
Ah, c'est important, ça, ce que vous nous dites. Anne Breton, il y a des auditeurs qui auront peut-être envie de faire quelque chose, qui sont sensibles justement à la détresse des personnes âgées qui souffrent de solitude. On peut faire quelque chose? Chacun d'entre nous peut faire quelque chose?
Oui, et je pense que vraiment, sur les personnes âgées, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de bénévoles.
Il faut se rapprocher de l'association, vous
en
connaissez.
Oui, les Petits Frères des Pauvres, qui sont déjà très organisés sur ce sujet, vous pouvez vous mettre en contact avec eux. Aussi, dans chaque mairie, il y a les services sociaux de la mairie ont un système de bénévolat, qu'on peut s'inscrire comme bénévole auprès de la mairie. Mais je suis toujours frappée, parce que ma deuxième délégation, c'est les personnes sans domicile. Je suis toujours frappée de voir que j'ai toujours beaucoup plus de facilité à trouver des bénévoles et beaucoup plus de gens s'engagent auprès de la très grande précarité qu'auprès des personnes âgées, alors que, à mon avis, les besoins auprès des personnes âgées seules sont beaucoup plus importants et ne sont pas pourvus.
Le message est passé, on peut donc s'adresser à sa mairie d'arrondissement à Paris,
voilà.
Et puis à l'association Les Petits Frères des Pauvres.
Les Petits Frères des Pauvres qui sont très très spécialisés sur le sujet des personnes âgées isolées.
Car les personnes âgées ont besoin effectivement d'avoir une vie sociale, bien qu'elle ne soit plus productive. C'est très important.
Oui,
et moral,
ça se fait déjà naturellement, mais je demande à chacun, puisque vous me donnez l'antenne, de penser aussi dans son immeuble, parce que je pense que la plus grande solidarité, c'est la solidarité de proximité, et que si tout un immeuble s'occupe d'une personne âgée, ne serait-ce que commencer par dire bonjour tant que les gens sont mobiles et apprendre à les connaître. Et il y a beaucoup de cas en fait où c'est l'immeuble qui prend en charge la solitude de la personne qui reste.
Proposer de faire ses courses, par exemple.
Oui, et ça c'est bien entendu la meilleure aide, parce que c'est une aide de proximité qui est, si on est quatre ou cinq voisins en train d'aider une même personne, ça ne dérange personne, c'est facile et c'est de l'aide de grande proximité.
Alors Anne Le Breton, vous êtes une élue La République En Marche de Paris. Je vous avais reçu dans cette émission avant l'élection d'Emmanuel Macron, que vous avez soutenu très tôt dans son ascension politique. Qu'est-ce qui a changé depuis son élection en France aujourd'hui et aussi dans la vie politique? Vous, quel changement notable percevez-vous?
Alors, je vais peut-être commencer par l'extérieur pour venir à l'intérieur. Moi, je voyage beaucoup et à l'extérieur de la France, l'image de la France a changé d'une manière radicale. C'est assez étonnant d'ailleurs. Je suis sûre que beaucoup d'auditeurs ont pu faire la même constatation. Mais c'est étonnant de voir l'intérêt que les étrangers portent sur notre président de la République, qui a redonné un vrai souffle de modernité, de jeunesse, de détermination à la France. Et d'ailleurs, ça se voit aussi dans l'attractivité de Paris pour les étrangers. Je pense qu'elle est vraiment due au président de la République qui redonne envie. Alors, vous savez, nous, les Français, on a toujours... on est des râleurs nés. Et... donc je pense qu'il y a eu un moment après l'élection de grand enthousiasme et puis qu'on est en train de retourner un petit peu dans nos travers, c'est-à-dire que on râle, on est toujours en train de s'auto déprécié. Et ce serait bien de continuer un petit peu sur cette envolée et d'essayer de travailler un petit peu notre pessimisme naturel et d'essayer de se voir un petit peu comme on est réellement, c'est-à-dire qu'on est un pays où les choses quand même vont bien par rapport à nos voisins, où même si le vivre ensemble n'est pas parfait, il n'est pas si horrible qu'on peut le penser quelquefois.
Mais si les Français râlent, Anne Le Breton, c'est que parfois il y a aussi de bonnes raisons, peut-être. Les Français, par exemple, peuvent être heurtés par la prochaine loi sur l'immigration. Vous qui travaillez avec la CIMAD, notamment, à allonger la durée de rétention des étrangers en situation irrégulière, est-ce que c'est véritablement une politique humaniste ?
Alors, personnellement, je ne suis pas particulièrement favorable à ce qu'on rallonge la durée de rétention, et je ne suis pas sûre que d'ailleurs ce texte va passer en l'état. Mais c'est drôle que vous me mentionniez ça, parce que j'étais en train de parler juste avant de venir à quelqu'un avec qui je travaille d'une association caritative pour les personnes sans domicile fixe, et qui me parlait de plusieurs raccompagnements qu'il avait fait. Il y a quand même un problème pour obtenir les titres de voyage de personnes qu'on raccompagne à la frontière. Et donc, il faut aussi trouver des moyens des moyens concrets de résoudre des problèmes auxquels on fait face dans l'administration de nos lois. Enfin, donc, si certaines personnes doivent être raccompagnées à la frontière, est-ce que c'est normal de les laisser repartir des centres de rétention parce qu'on n'a pas reçu les papiers à temps? Donc ça, c'est une question que je pose. Alors, est-ce que c'est le seul moyen d'obtenir les papiers, c'est d'allonger la durée de rétention? Moi, j'en suis pas persuadée. Je pense qu'on peut aussi faire beaucoup pression sur les pays d'origine pour que eux-mêmes donnent les papiers à temps.
D'autant que des collègues à vous de La République En Marche, députés Naïma Moutchou et Yaël Braun-Pivet, se sont rendus dans un centre de rétention et elles ont été très émues par les conditions de vie à l'intérieur de ces centres de rétention.
Les centres
qui ne sont pas dignes de la France.
Et les centres de rétention ne sont... Donc, c'est une... un centre de rétention, ça n'est pas une prison et ça ne devrait pas l'être parce qu'on n'est pas face à des gens qui ont commis des délits. Et donc, les centres de rétention ne sont pas faits en l'état pour garder des gens pour des longues durées puisqu'ils sont censés être juste un passage vers une reconduite à la frontière. Donc, si ce texte passe en état, et je ne suis pas sûre que ce sera le cas, il faudra effectivement revoir les conditions de séjour dans les centres de rétention pour que ce soit plus adéquat à un long séjour. Ça, c'est...
Anne Le Breton, j'aimerais à présent qu'on parle de Paris. Vous êtes élue La République En Marche dans le 4e arrondissement de Paris. De nombreux députés La République En Marche ont été élus à Paris. En revanche, pour l'instant, le groupe La République En Marche à Paris n'est pas très important. Comment vous envisagez l'élection municipale à Paris ?
Ça a fait l'objet de beaucoup de débats cette semaine. Et comme vous le savez, La République En Marche ne souhaite pas pour le moment se positionner ni présenter un candidat à ce stade.
Il y a déjà eu un sondage avec Benjamin Griveaux qui arriverait en tête du premier tour devant Anne Hidalgo.
Effectivement, et donc nous en sommes très heureux, mais enfin on est à 2 ans de l'élection. Nous, on est vraiment sur une démarche de travailler sur un programme. C'est vraiment le plus important. Donc nous sommes de nombreuses équipes, parce qu'on a des équipes La République En Marche dans tous les arrondissements de Paris, avec beaucoup de militants dans chaque arrondissement. On est tous en train de travailler à ce programme. avec énormément de compétences, avec énormément de personnes qui apportent leur connaissance et leur expertise à ce programme. Et donc, ça va être notre travail principal, c'est de travailler ce programme.
C'est la même méthode qui a permis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, parce qu'on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être candidat sans lettres, de ne pas avoir de programme. Et puis, on a eu le programme très tard, finalement.
Écoutez, l'essentiel, c'est d'avoir le programme... avant l'élection, pour que les Parisiens puissent se faire une idée. Mais on est 2 ans avant l'élection.
Sans vous prononcer sur la droite, la gauche, on voit que Paris a une sociologie quand même particulière. Il y a des arrondissements de droite, des arrondissements de gauche. On se dit que finalement, La République En Marche, qui rassemble des élus de droite et de gauche, en théorie, les planètes sont plutôt bien alignées pour vous. Si, sur le plan national, les Français continuent à apprécier Emmanuel Macron dans 2 ans.
Oui, les planètes sont bien alignées, le sondage l'a démontré, mais c'est à nous aussi de démontrer par notre travail et par notre capacité à présenter des candidats de valeur partout, parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection de Paris, ça n'est pas l'élection d'une personne. C'est l'élection, pour le moment en tout cas, de 20 maires d'arrondissement. Donc il faudra qu'on soit capable de présenter...
Vous-même, vous souhaiteriez devenir maire du 4e arrondissement, puisque vous avez déjà eu cette ambition?
Oh là là, je ne vais pas me prononcer non plus à ce stade-là, si on n'est même pas... Si La République En Marche ne se prononce pas sur le maire de Paris, je ne me prononcerai pas non plus sur les mairies d'arrondissement.
Il n'y aura pas de primaire, par contre, au sein de La République En Marche pour la désignation des candidats?
Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, ce que je peux vous assurer maintenant, c'est que on a tellement de personnes de qualité que, à ce stade, on serait capable de présenter des équipes municipales complètes partout, avec vraiment des gens de grande qualité.
On peut imaginer que des gens qui sont aujourd'hui des élus socialistes, d'autres qui sont des élus de droite, pourrait rallier aussi La République En Marche dans les mois qui viennent, puisque c'est aussi ça la méthode de votre parti politique, c'est que il y a des gens qui quittent leur parti d'origine pour rejoindre La République En Marche.
Il y aura peut-être des mouvements comme celui que vous venez de décrire, mais je pense aussi qu'il y aura énormément de nouveaux élus de la société civile parmi les marcheurs. On a des gens qui sont des gens de grande qualité, qui sont très, très experts sur certains sujets, qui sont avec nous depuis, qui sont des marcheurs depuis le début. Et je pense que toutes ces personnes sont appelées, en fait, à être élues aux prochaines municipales.
C'est un premier test pour Emmanuel Macron, mais il y aura auparavant les élections européennes. Est-ce que sur la question européenne, vous avez peur du populisme? Ces élections auront lieu l'année prochaine.
Alors nous lançons le 6 avril prochain un travail qui s'appelle la Grande Marche européenne, qui est un travail très important, qui était un peu comme la Grande Marche qu'a fait Emmanuel Macron avant son élection, où nous allons aller interroger les Français sur ce qu'ils souhaitent de l'Europe. D'ailleurs, cette grande marche européenne devait être lancée le week-end dernier, a été reportée en raison des attaques terroristes. Et donc, cette grande marche européenne, ça va nous permettre de remonter à partir du terrain la perception que les Français ont de l'Europe. Écouter leurs attentes, et ça c'est la méthode d'Emmanuel Macron, et c'est la méthode d'En Marche, c'est d'essayer d'aller à la rencontre des Français et d'écouter et de remonter un projet à partir de ce qu'on a entendu. Donc ça c'est vraiment fondamental sur notre méthode, c'est-à-dire que nous allons aller faire du porte-à-porte. Nous avons mission de nous taire et d'écouter, et vraiment d'essayer de remonter ce que les gens nous disent de l'Europe pour entendre leurs problèmes et leurs questions vis-à-vis de l'Europe.
Merci Anne Le Breton. Je rappelle que vous êtes élue de Paris La République En Marche, adjointe au maire du 4e arrondissement de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.